maman. Qu'est-ce que c'est? Je commence le message en téléphone.
Bonjour. Ah oui, bonjour monsieur. Oui, dites-moi. Elle est réparée déjà. Oh, c'est bien.
La
La
remorque?
remorque, oui. Ah, ben envoyez votre facture, monsieur. Je ne sais pas quand est-ce que mon mari pourra aller la chercher parce que,
Non.
oui, il payera quand il passera.
Oui.
D'accord,
Non, je
d'accord.
ne passerai que quand après ses congés à Louis.
Il va passer après vos congés.
Oui.
Oui. D'accord, début septembre.
Merci Mohamed.
Oui.
Grand
Merci
merci.
beaucoup,
Que
hein.
Dieu vous bénisse.
Infiniment merci,
Que
hein.
Dieu vous bénisse.
Au revoir et bonnes vacances, hein.
Bonjour, chers amis. Je vais reprendre aujourd'hui un message que j'ai fait hier. J'ai fait ce message hier. Vous savez, je ne peux pas être partout, je ne peux pas préparer chaque fois un message unique. Mais voilà, nous allons, si possible, nous pénétrer de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sainte. Elle est belle, elle nourrit l'âme. Et je salue évidemment Annette et toutes les autres personnes qui écoutent. Nous avons évidemment, que nous soyons croyants ou pas croyants, une même réflexion aujourd'hui. Le monde ne s'améliore pas, il s'empire. Mais du point de vue chrétien, ça va plus loin. Et nous allons aborder cela après avoir prié. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Voilà. Donc vendredi, j'aurais dû faire le message à 18h. J'avais prévu de rentrer pour 17h. Et en cours de route, le roulement à billes d'une des roues de la remorque s'est envolée. Après beaucoup de précautions, nous sommes arrivés dans un garage et lorsque nous avons rentré la remorque à la main, chargée bien sûr dans le garage, paf, la roue était à terre. C'est Dieu qui nous a protégés parce que si ça avait été sur l'autoroute, c'était un véritable grabuge. La remorque aurait peut-être entraîné la voiture dans des grands bouleversements. Et la roue se serait sauvée et aurait peut-être provoqué des accidents. Voilà, Dieu nous a protégés et nous sommes restés 4 heures dans cet endroit parce que le garagiste était gentil, avait à cœur de réparer et de 1h10 à 5h10 on a attendu. Puis ce fut un échec lamentable parce qu'il n'avait pas trouvé le troisième roulement à billes. Il y en avait deux de même diamètre et un d'un diamètre plus grand. Et à l'instant, comme je commence le message, ce garagiste, qui s'appelle Mohamed, vient de téléphoner en disant que la remorque est réparée. Et j'ai demandé qu'elle soit réparée des deux côtés, puisque l'autre côté allait faire sans doute la même chose dans 100 ou 300 kilomètres. Ou 2 kilomètres. Donc, que Dieu bénisse ce garagiste consciencieux. La remorque va rester chez lui dans son garage jusqu'au début septembre. Parce que je ne vais pas par là pour le plaisir de rechercher une remorque à peu près vide. Nous sommes rentrés donc, après beaucoup de pertes de temps, à 23 heures et le message n'a pas eu lieu à cause de ça. Pas de message parce que cette remorque sur l'autoroute est tombée en panne. Pas de message vendredi. Bon, je reprends le sujet de ce que je venais de vous dire. Le diagnostic pour un incroyant ou pour un croyant ici en Europe, en tout cas, c'est que le monde humain ne s'améliore pas. Naturellement, chez les incroyants, ils espèrent toujours que le monde va changer, qu'il va y avoir des grandes transformations, mais ils ne voient pas que c'est eux-mêmes leur vie qui doit être transformée. C'est ça la grande illusion de l'être humain, c'est qu'il cherche à ce que les conditions humaines changent, politiques, économiques, les rapports financiers, les rapports sociaux changent, mais dans son cœur, il ne voit pas où est le problème. On a toujours tendance chez l'humain à voir le problème chez les autres, ou en tout cas au niveau de la société. Ce n'est pas facile pour l'humain d'admettre son échec, et on dit la situation ne s'améliore pas, ça va mal. Et j'ai rencontré cet après-midi une dame, pendant une heure, qui est très gentille, qui est homosexuelle. Je vais la mettre dans la prière, évidemment. Je vous demande de prier aussi pour tous ces gens qui sont homosexuels. Il y en a de plus en plus dans nos pays, ici. Dans d'autres pays, c'est peut-être très fortement caché, mais ça existe, hein. Et ce qu'il y a, puisque dans le livre de Lévitique, au 15e siècle avant Jésus, 14e siècle avant Jésus, déjà, c'est interdit. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, c'est interdit. Donc ça existe depuis très longtemps, depuis le péché d'Adam et Ève, sans doute. Genèse chapitre 6. Hein. C'est pour ça que Dieu s'est fâché et a causé le déluge, pour punir cette race de pécheurs qui ne voulaient pas s'amender. Bon, maintenant, voyons le problème d'un point de vue chrétien. Les esprits méchants contrôlent les dirigeants du monde. Les esprits méchants contrôlent la fabrication des lois, la conduite des gouvernements. Nous sommes dans un monde difficile. Sachez bien que Jésus, dans Jean chapitre 19, a dit « Je suis roi ». Oui, je suis roi. Pilate lui demandait « Mais je suis roi, pas de ce monde. Je suis venu pour témoigner de la vérité dans ce monde. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est clair que Jésus, qui est fils de Dieu, qui est Dieu, n'a pas de solution directe pour améliorer le rapport des hommes entre eux. Sauf que, un peu après avoir parlé avec Pilate, alors que Pilate dit « il n'y a pas de crime en cet homme », un peu après, Jésus meurt sur la croix de manière volontaire pour exécuter Ésaïe 53, pour exécuter les prophéties des psaumes, de Moïse aussi, et Jésus meurt pour que le péché qu'il a endossé sur lui soit crucifié, condamné à jamais. Le péché est condamné. Jésus s'est fait pécheur alors qu'il n'est pas pécheur, pour porter cette iniquité, cette façon abominable des hommes de se comporter, de penser, de réagir. Jésus a porté la malédiction sur lui. Et nous, si nous acceptons Jésus, nous ne sommes plus sous la malédiction, nous ne sommes plus sous la colère, nous sommes au bénéfice de son sacrifice, nous recevons la paix de Dieu par le sang de Jésus. Évidemment, il faut que le message de l'évangile soit prêché aux incroyants, et quand je reverrai cette jeune femme homosexuelle, il est clair qu'il me faudra peut-être 5 minutes, comme il me faudra peut-être 2 ans pour la convaincre, l'amener à être convaincue de péché. Mais il est clair, chers amis, que quand on prend le temps dans la prière, dans la solitude avec Dieu, d'intercéder pour la personne, parfois ça va très vite. Je vous rappelle une chose, c'est que dans Acte 7, Pierre, Jacques et Jean et tous les apôtres décident de nommer des diacres pour s'occuper des tâches matérielles des chrétiens, pour qu'il n'y ait pas d'injustice, pour que tous les services soient rendus de manière équitable entre chrétiens dans la première église. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il faut que nous nous consacrions à la prière à part de Dieu. Aujourd'hui en Occident, depuis de longues années, j'avais vu une enquête anonyme sur les pasteurs en France, de toute la région de Paris, le temps de prière était de 10 minutes par jour. C'est catastrophique. J'ai connu des périodes de ma vie comme ça, où on prie à la sauvette, on prie comme ça là, on bricole dans la prière. Mais en fait, on se moque de Dieu. Même si on n'a pas conscience, on se moque de Dieu. Et il est clair que si nous voulons que les églises se redressent en Europe, il faut que les églises consacrent du temps dans la prière et la parole de Dieu. Je propose à tous les chrétiens de France qui m'écoutent et autre part de consacrer une heure, se lever une heure dans la parole de Dieu à la prière. Et vous verrez, vous aurez la sensation que ce n'est pas assez quand vous aurez fini. Si vous avez un cœur attaché à Dieu, si vous vous laissez conduire par l'Esprit Saint, vous ferez l'expérience que ce n'est pas assez. Et vous vous mettrez à abonder en prière, en action de grâce, à d'autres moments de la journée. Et vous vous relèverez certainement la nuit même pour invoquer le Seigneur, l'adorer. Et présenter les personnes que vous avez rencontrées, les personnes de votre famille, les personnes de votre voisinage, vos ennemis, pour présenter les autorités locales, les autorités internationales dans la prière. Nous devons le faire. Il n'y a pas d'église sans le ministère de la prière et de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ si nous ne consacrons pas du temps dans la prière, l'adoration, l'intercession. On doit se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. Sans cela, c'est l'église de Laodicée, c'est l'église de Sardes, c'est, à part l'église de Philadelphie, dans Apocalypse, au chapitre 2 et 3, c'est une église qui ne va pas bien et qui finit par disparaître. Rappelez-vous que l'église d'Éphèse était magnifique, comme il y en a en Occident, aux États-Unis, etc. Magnifique, des œuvres, c'était formidable. C'était la deuxième grande ville de l'Empire romain et l'église était prospère. Elle avait beaucoup de monde. Et pensez bien qu'à cette époque-là, à la fin du premier siècle, c'est tous des baptistes, c'est tous des évangéliques. On prêche l'évangile, quand ils croient en Jésus-Christ, ils sont baptisés par immersion, et puis ils sont dans une église où on prêche la parole de Dieu. Et pourtant, dans cette église qui paraît authentique, elle n'est pas authentique. Dans cette prière, dans cette parole que Jésus adresse à cette église, il dit « Vous avez abandonné votre premier amour, la communion avec moi, ma personne. Vous aviez foi dans votre église, vous avez foi dans vos engagements, dans toutes vos œuvres, foi dans votre foi. C'est pas ça que je vous ai demandé. » Le Seigneur a demandé que nous soyons en communion avec lui. Dans Marc au chapitre 3, quand Jésus monte sur la montagne et qu'il en appela 12, eh bien, il est établi comme apôtre, disciple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle pour les avoir avec lui, en français, mais en grec, dans le texte en grec, c'est avoir en union, en communion avec lui. Et il est clair que dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour envers Dieu est répandu dans mon cœur abondamment par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc clairement, il n'y a pas d'église sans amour, sans adoration. Autrement, c'est une église vide. Et savez-vous ce que Christ dit à l'église d'Éphèse? Si belle soit-elle, on retirera le chandelier de ta place. Cette église n'existera plus. Évidemment, il y a l'islam. Tous les pays chrétiens, que ce soit en Syrie, en Égypte, au Maroc, partout, qui ont eu ce comportement, l'islam est passé après et a raflé tout le monde. On est retourné à la loi, à des règles, à des principes extérieurs, à la culpabilité, à l'angoisse d'un Dieu tout-puissant, va-t-il pardonner ou pas, et on est absolument hors de la croix. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de sacrifice de Christ, il n'y a pas de rédemption. Voilà le résultat des églises qui n'ont pas la communion avec Jésus-Christ. Où que vous soyez, en Belgique, en France, au Pakistan, n'importe où, en Ouzbékistan, Kazakhstan, je vois qu'il y a des personnes de partout qui m'écoutent, il faut cette union, cette communion personnelle avec Christ. Et chers amis, chers serviteurs, chers frères et sœurs, insistez, vous ne pouvez pas passer à côté de ce devoir. Si vous ne l'accomplissez pas, vous êtes dans l'apostasie. C'est une église bidon, c'est du leurre. Une église est christocentrique, elle est centrée sur le Christ, elle vit de Christ, elle est en union, en harmonie avec Christ, la personne de Christ. Dans Matthieu 28, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors, une église ne peut tenir que sur la base de la puissance de Christ. Une église ne peut tenir que si elle écoute Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des enseignés. Enseignez la parole, bien entendu. Ce n'est pas la parole du pasteur ou du chrétien qui compte, c'est la parole de Christ. Sans rien ajouter, sans rien retirer. Deuxième aux Corinthiens 13:8, il n'y a pas de puissance hors de la parole. Il n'y a de puissance que dans la vérité. Hors de la vérité, il n'y a point de puissance. Vous ajoutez quelque chose, vous retranchez quelque chose à la parole de Dieu, c'est un enseignement sans puissance. Où le Saint-Esprit n'agit pas, il n'y a plus que l'homme qui a parlé, et ça fait l'église de l'apostasie. Donc, quand on voit que le monde ne s'améliore pas, il faut se demander si nos églises s'améliorent. Ce n'est pas la peine de jeter des pierres sur les autres et de penser que le monde ne s'améliore pas. Ce n'est pas notre problème. Dieu le sait bien. Mais il peut améliorer le monde par un véritable évangile fidèle, fidèlement vécu dans l'amour de Christ. Il peut changer le monde. Le pire ennemi peut être vaincu par la croix de Christ. Le pire ennemi peut être vaincu par la prière et l'adoration et la parole de Dieu. Dans le silence de la prière, Dieu nous entend et il répond efficacement. Donc, je pense que l'homme peut s'améliorer, l'homme a une chance. Et lorsque je rencontrais avec mon épouse l'autre fois dans une fête, nous étions là, c'était beaucoup du brouhaha, c'était la foule, etc. On était un peu à part, parce que bon, on n'a pas l'impression d'être à notre place, mais on y allait pour faire plaisir à un de nos fils. Et des enfants avancent vers nous. Et je pense souvent aux enfants du Pakistan, quand je vois leur visage et tout ça. Des enfants à travers le monde. Et je pense à Jésus, qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Voilà des enfants qui arrivent, et 12 ans, 11 ans, 7 ans, voilà, et un qui a 29 ans et qui nous regarde bien dans les yeux et « Bonjour, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas du village, qui êtes-vous » etc. Ben, on dit « On est les papas et la maman d'un tel qui s'occupe de l'animation dans le village, culturelle du village. » Et alors, je vois que cet enfant était poussé à nous parler, il nous regardait dans les yeux. Et je lui dis, alors, tu es content de ta vie? Tu es content de ta vie? Elle sert à quelque chose? Oh non, monsieur, l'homme ne sert à rien sur la terre. Si tu écoutes la télévision, si tu écoutes ce que ton cœur te dit, tu as raison. Mais si tu écoutes Jésus, tu as tort. Alors je lui prends la parabole, je lui demande, qu'est-ce que Jésus a demandé à l'homme riche? Ben, il a demandé quel était le plus grand commandement. Et c'est quoi le plus grand commandement? Ben, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce brave garçon avait déjà écourté la parole de Christ, par lui-même ou par la personne qui l'enseignait à l'école. Et je lui dis, non, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as compris? Oui. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai lu dans la Bible. Et il a encore la chance d'avoir une Bible. Ici en Europe, un enfant qui lit la Bible, c'est un enfant sur 100 hein, ou sur 200. Alors, je lui demande, et ton prochain, c'est qui? Il ne savait pas répondre. Mais je vais te dire, regarde, juste après, il y a la parabole du bon samaritain. L'homme qui est blessé au bord de la route, le prêtre passe, un homme de religion, le lévite passe, l'adjoint du prêtre, et il ne s'arrête pas. Et le samaritain, l'étranger, s'arrête et prend pitié, met de l'huile et du vin sur la plaie, il bande les blessures, et il l'amène à l'hôtellerie et il donne de l'argent et il dit « Je repasserai, je payerai le reste. » Que penses-tu? Cet homme est-il utile ou pas? Oui, oui monsieur, cet homme est utile. Eh bien, tu peux faire de même, comme Jésus te le demande au jeune homme riche. Toi aussi, Jésus te le demande aujourd'hui. Ta vie sert à quelque chose. N'écoute pas ce que le monde t'enseigne en Occident. L'homme ne sert à rien, L'homme est nul. You have no future, no possibility, no love, no redemption. Pas de rédemption, pas de salut, pas d'amour. Oui, évidemment, dans Matthieu 23, Jésus avait dit, à cause de l'iniquité de certains, donc des chefs religieux, des chefs politiques, l'amour de la multitude se décroîtra. Donc cet enfant était contaminé, pas par le Covid, mais par quelque chose de pire. Il se sentait inutile et ne voyait pas qu'il avait des dons pour aimer. Donc nous avons discuté, je lui ai promis une Bible, je lui ai promis d'autres choses, et j'ai dit, tu iras dans une semaine chez mon fils dans ton village, j'envoie un colis là-bas pour toi. Vous vous imaginez qu'un enfant de 9 ans ose dire, l'homme ne sert à rien. C'est aujourd'hui ce qu'on entend partout ici. Tout, dans nos civilisations, où on a le chauffage, on a l'électricité, on a des voitures, on a la télévision, on a tout, c'est le désenchantement complet. Les hommes et les femmes ne sont plus tranquilles. Ils savent un jour qu'ils vont tout perdre. Ils vont perdre ça. Ce n'est pas durable. Mais que font-ils pour chercher la face de Dieu? Que font-ils pour chercher? Chers amis, ils sont captifs de leur péché. Ils sont aveugles, ils sont sourds. Il faut donc que les chrétiens viennent vers eux avec l'évangile. Et la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10. C'est clair, nous sommes une semence sur la terre pour propager la résurrection des âmes, pour propager le salut des âmes. Nous ne sommes pas inutiles. Et il est clair, chers amis, que les chrétiens doivent aujourd'hui, en Occident en tout cas, s'améliorer, se remettre en question. Mais regardons Pierre et Jacques, Jean, dans Acte 7, ils voulaient se consacrer à la prière à la parole de Dieu. Ici en Europe, il n'y a presque plus de pasteurs, les pasteurs sont surchargés, ont-ils vraiment du temps, 2, 3, 4 heures dans la prière tous les jours, l'adoration, l'intercession et la parole de Dieu? Est-ce que, quand il n'y a pas de pasteur, ou même s'il y a des pasteurs, les anciens, qui sont des hommes mariés, qui travaillent, qui ont une profession, est-ce qu'ils ont au moins une heure à deux heures de prière, de méditation de la parole? Tous les jours, sans l'aide de l'ordinateur, où tout le travail est digéré et tous les versets défilent, il n'y a plus qu'à aller les répéter à l'église. Sans l'ordinateur, uniquement en présence de Dieu, en communion, en union à Christ, devant sa parole. La vraie vie de l'Église peut toujours s'améliorer lorsqu'on se met à genoux en vérité. Jésus a dit dans Jean 17:17, « Ma parole est la vérité, ma parole vous sanctifiera. » C'est une promesse. Dans Timothée, Paul a dit, « Tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. » Retournons aux choses élémentaires, fondamentales de la vie chrétienne. J'imagine, demain, toutes ces personnes pauvres que je vois au Pakistan, qui tout d'un coup, nous avons été pauvres ici en Occident aussi, tout d'un coup ont du standing, ont un beau boulot, une profession, une belle maison, électricité, etc. Diplôme, ascension sociale. Où va passer Jésus? Où va être l'évangile? Où va passer la personne de Jésus? L'idolâtrie de ce monde, les convoitises de ce monde, gagnent vite le cœur des hommes. Quand l'homme souffre, quand l'homme est brisé, il cherche Dieu. Mais quand l'homme a trouvé satisfaction dans ce monde, il se détourne de Dieu. Qu'a dit l'auteur du livre des prophètes? Il a dit, « Mon Dieu, donne-moi suffisamment à manger pour que je ne me révolte pas contre toi, mais ne me donne pas trop pour que je t'oublie, je te mette de côté. » Voilà une parole de sagesse qui est à la base de tous nos comportements. Donc, l'homme ne s'améliore pas, oui, mais l'homme en Christ se perfectionne. L'homme porte du fruit. La vie en Christ est une vie de réussite. Même si on est en guenille, même si on est pauvre, ça peut être une vie réussie, victorieuse. sur le péché et sur les idoles de ce monde. Tout le christianisme qui s'est développé a toujours été, s'est développé dans les pays en difficulté, là où il y avait persécution, là où il y avait humiliation des chrétiens. Chaque fois que le confort est arrivé, on s'est écarté. L'Empire romain, l'histoire de l'Empire romain nous a donné cet exemple en Occident, et nous avons ça aussi depuis un siècle ici en Europe. Donc, l'homme ne s'améliore pas du point de vue de l'athée, du point de vue de Jésus-Christ, il peut être transformé et il peut porter dans ce monde une amélioration, une sanctification, et voir la rédemption par l'effet tout-puissant de la parole de Dieu. Mais en gros, la mentalité aujourd'hui est de dire « l'homme ne s'améliore pas ». Eh bien, si l'homme ne s'améliore pas, Satan ne s'améliore pas non plus. Satan, lui, continue à exercer toute cette tactique pour faire s'ouvrir les vrais chrétiens. Satan exerce ses ruses. Et il faut donc beaucoup de prières, chers amis, pour discerner, avoir les yeux ouverts sur les ruses et les tactiques de Satan. Ces ruses sont nombreuses. Si Satan ne change pas, mes yeux peuvent changer, ma conscience peut changer, je peux apprendre à discerner, car si je suis dans la prière à la parole de Dieu, je le vois arriver. Je me rapproche de Dieu, je m'humilie devant le Seigneur, je prie, et il s'envoie loin de moi. Qu'est-ce qui ne change pas dans le monde? Ce qui ne change pas, c'est le salut par grâce. Le salut par grâce de la croix ne changera jamais. C'est un salut divin, c'est un plan de Dieu, il se réalisera. Dieu arrivera à son but. Dans Apocalypse chapitre 7, les 144 000 d'Israël vont servir Dieu. Imaginez, pour fonder l'Église, il n'y avait que 12 Juifs, plus tous ceux qui ont écouté Pierre, Jacques et Jean, comptons 25 000. Qui sont partis à travers le bassin méditerranéen, dans l'Inde, partout, dans tout le monde entier, annoncer l'Évangile. Mais imaginons, quand Christ reviendra, qu'il y en a 144 000, comme Pierre, Jacques, Jean, Paul, 144 000 de cette dimension spirituelle, de cette force, dans la prière et la parole de Dieu. Vous imaginez que le monde va être inondé de la grâce. Surtout que Satan ne sera plus là. Dans le royaume de Christ. Surtout que le péché a déjà été crucifié, cloué à la croix, et que Satan n'est plus là. Il est lié pour 1000 ans. Le salut par grâce ne change pas, le salut par grâce est notre victoire. Aujourd'hui, dans notre époque, il y a des choses qui se passent qui ne se sont jamais passées avant. Il y a quelque chose, il y a toujours eu des guerres, des rumeurs de guerre, etc. Vous lisez ça dans Luc 21, il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des misères. Et c'est vrai qu'il y en a. Bon. Mais actuellement, dans notre monde, il y a des choses inédites qui n'ont jamais eu lieu avant. C'est que dans toutes les grandes sociétés modernes, on cherche à faire basculer toutes les valeurs chrétiennes et à changer le mal en bien, et le bien en mal. La douceur en amertume, et l'amertume en douceur. On change à renverser profondément les valeurs judéo-chrétiennes. Et c'est dans le psaume 2. Et c'est dans Ésaïe, chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Donc c'est de l'arrogance, de l'impertinence à l'égard de Dieu. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5, verset 20. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Aujourd'hui, par l'avènement des philosophes allemands et français, on a contaminé le monde d'une philosophie orgueilleuse où les valeurs chrétiennes sont combattues tout le temps. Dans nos écoles, on prône l'amour du petit garçon avec le petit garçon, la petite fille avec la petite fille, ou le plaisir de la masturbation. Et on enseigne l'abolition des genres. Il n'y a plus d'hommes et de femmes. On ne peut plus dire devant les enfants, papa et maman. Et si un enfant rentre à l'école, c'est un petit garçon, par exemple, 3 mois après, il dit, non, je m'appelle Sylvie, je suis une petite fille, et il vient habillé en fille, eh bien, il faut l'accepter, vous l'appelez Sylvie. Si c'est un professeur, la même chose, ou une professeure. Tout est mouvant, tout est troublant, tout est déstabilisant, tout est créé pour ça. Et Daniel l'avait annoncé, il y a un temps où les ennemis de la foi vont essayer de renverser les lois de Dieu. Donc, regardons attentivement ce texte d'Ésaïe, chapitre 5, versets 20 à 21. En vous disant clairement que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix ont pris pied à travers les partis socialistes et écologistes, pied, et ont eu une grande influence pour diriger les dirigeants, les gouvernants des pays riches. Et ils essayent de contaminer les pays pauvres. Les pays musulmans résistent, les pays musulmans n'en veulent pas, ils sont contre toute cette souillure de l'Occident, mais ce cas, ils n'ont pas la croix. Et la notion de péché n'est pas la même que chez les chrétiens. Du moins que je pratique des rites, eh bien, je ne suis pas dans le péché. Du moins que je respecte l'Ouma, la communauté, je suis solidaire et je ne m'isole pas de la communauté, je ne suis pas dans le péché. Donc, c'est sociologique, c'est psychologique et moral. Mais fondamentalement, la méchanceté, l'impureté, le mensonge, la ruse, rien n'est réglé. La façade est sauve. Il y a des musulmans qui s'en rendent compte, des musulmans qui se rendent bien compte qu'il faut aller plus loin, qu'il y a un Dieu de vérité qui les appelle. Et clairement, c'est vrai, j'aime rencontrer des gens comme ça. Et le monsieur qui a téléphoné là à 6 heures, quand on commençait, le garagiste où j'ai laissé ma remorque en France, je vais parler avec lui. D'ici le début septembre, je vais mettre cette rencontre au pied du trône de gloire du Seigneur. Car je ne peux pas convaincre un musulman de venir à Christ si Dieu le Père ne l'attire vers Christ. Si l'action de Christ n'est pas comme une forme de séduction, d'attirance dans son cœur et dans son âme. Il est clair que j'ai son adresse au garage et je vais déjà envoyer un livre. Quelque chose. Il part en congé fin du mois et il aura pendant les vacances, quand il partira en Turquie, ces écrits-là pour nourrir son âme. Est-ce que je suis un idéaliste, un fou? Pas du tout. J'ai déjà vu des personnes musulmanes, turques, venir au Seigneur. La foi est une folle espérance dans la puissance de Christ pour sauver des hommes. La foi. Chers amis, Hébreux, qu'est-ce que c'est que la foi? Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère le meilleur pour les autres. On espère Christ dans leur vie. On espère la venue du royaume de Dieu. On espère que Satan sera brisé. On espère que le péché, on en aura fini avec ça, y compris en nous et chez les autres. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ma vie, comme chez certains d'entre vous qui servent le Seigneur, vous avez déjà vu que Dieu démontrait sa puissance pour changer des cœurs. Parce que vous avez cette foi-là en Christ, cette union avec Christ, qui parle dans votre cœur. L'Esprit Saint vous dit, prie pour cet homme. Tu le rencontreras dans 2 jours, dans 3 jours, ou cette femme. Tu Tu le rencontreras d'une semaine. Prie. Mets-toi à mes pieds. Mets cette personne dans mes mains. Et quand tu la rencontreras, tu verras. Tu n'auras pas grand-chose à dire. C'est elle qui va poser les bonnes questions. Tu n'auras qu'à répondre. J'aurai préparé le terrain. Qu'est-ce qui plaît à Dieu, les amis? C'est la foi. C'est la foi qui plaît à Dieu. Cette foi-là. Et est-ce que nous aurions perdu la foi en Occident, dans les églises? Beaucoup. Et c'est déjà arrivé au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle. Il y a toujours du blé livré. Il y a toujours des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels dans les églises. Soyons réalistes, tout en ayant une ferme conviction. Une ferme espérance. Donc, il y a des choses inédites, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs mondiaux, financiers, orchestrent en même temps un changement spirituel, orchestrent un changement moral dans les populations pour qu'elles offensent Dieu, qu'elles retournent toutes les valeurs, qu'elles tournent dans l'irrespect envers Dieu. Une deuxième chose qui est arrivée, un grand basculement, c'est que toutes les philosophies modernes, intellectuelles, qui touchent les classes intellectuelles de tous les pays, c'est l'idée que Dieu n'a pas créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde. Dieu est simplement absent de la nature. C'est une évolution normale. C'est la puissance énergétique de l'univers. L'univers est Dieu, si vous voulez. Ou c'est le hasard, un grand mot. On cherche à enseigner dans toutes les écoles ici en Occident, depuis déjà longtemps, depuis 30, 40 ans, que la création est dangereuse pour la liberté et la démocratie. Le créationnisme est un poison de l'âme, de la pensée, de l'intellect humain. Et beaucoup ont adopté cette position. Dans certains de nos pays, qu'ils soient des républiques, en général ce sont des républiques, suite à un grand remaniement, il n'y a plus un roi, un prince qui dirige, c'est des républiques, soit ça s'est fait en douceur, soit ça s'est fait dans le sang. Les vertus des républiques, ce sont celles-ci. Pas d'école à la maison, pas d'éducation par les parents, pas d'éducation par les hommes religieux, l'éducation par l'État, par la nation. Le nivellement des consciences dans un cadre préformé, décidé en haut lieu par les hommes politiques. Et par derrière, bien sûr, la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et par derrière encore Satan. Aujourd'hui, l'école à la maison était un droit qui existait et il tend à disparaître puissamment. Et on surveille maintenant, en Occident, de plus en plus les dons que les églises reçoivent et les dons que les églises envoient à des autres. Pour le moment, je peux envoyer de l'argent encore au Pakistan, mais il y a un jour, je sais, on va m'en empêcher. On va m'en empêcher. J'ai déjà vu, j'ai déjà reçu des formulaires, on me pose des questions. Où recevez-vous l'argent? À qui donnez-vous? Pour quelles raisons? Etc. C'est chaque fois que je vais au guichet. Mais quelqu'un de notre église a vendu sa maison, il a de l'argent en compte, il veut acheter un meuble, il veut acheter quelque chose pour ses filles. On lui demande, c'est pourquoi, monsieur? Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Il faudrait nous montrer les factures, les tickets. Pourquoi n'utilisez-vous pas la carte magnétique pour faire ces achats? Au moins, on pourrait savoir à quoi sert votre argent. Alors que c'est l'argent de la personne qui est déposé à la banque, il devient de plus en plus un être soumis. Satan cherche à assujettir les nations par l'argent, par la peur des maladies et par la peur des guerres. Nous disposons aujourd'hui dans notre monde d'une grande mondialisation par l'Internet. On peut communiquer avec des gens de partout. Mais sachez bien qu'on est surveillé de partout aussi. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons est enregistré. J'ai des milliers d'adresses sur mon téléphone, sur mon smartphone, une quantité invraisemblable de messages reçus ou donnés. Et un jour, mon smartphone disparaît en France. Je l'ai retrouvé un an après dans la voiture, mais je ne l'avais pas vu. J'en ai acheté donc un autre. Donc j'ai reconfiguré mon smartphone. Et pendant une journée, il a tourné et tourné, et il m'a remis toutes les informations qui étaient ou en réserve, soit en Angleterre, soit en Allemagne, soit aux États-Unis, ou autre part. Tout ce que j'ai pu dire, j'ai pu faire, est enregistré et stocké. Imaginez, mes amis, à quel point la mondialisation par l'Internet est devenue un outil pour dominer. En plus de la télévision et de toutes sortes d'autres choses. La communication s'est développée et la soumission s'est développée. Le contrôle et le traçage de personnes s'est développé. Est-ce que Dieu a voulu cela? Est-ce que Dieu a voulu cela? Pas du tout. Nous pensons que Dieu est le seul qui a le droit de regard sur l'âme, sur la vie familiale, la vie physique d'une personne. Seul Dieu, Dieu haut des cieux, a ce regard. Pourquoi, avec l'Internet, des hommes cherchent à avoir ce pouvoir équivalent à Dieu? C'est Satan. C'est Satan qui veut ce pouvoir équivalent ou supérieur à celui de Dieu. Nous revenons toujours au même conflit des ténèbres et de la lumière. Pourquoi est-ce qu'on a développé le circuit du commerce par Amazon, Alibaba? Pourquoi? Vous me direz parce que c'est moins cher, etc. Ce sont des esclaves en Chine, en Indonésie, partout qui font ces produits-là, pour qu'on les amène ici dans nos pays riches. Et ça se développe d'une manière incroyable. Mais pendant ce temps-là, la classe moyenne des petits artisans disparaît, des petits magasins, des petits négociants. Et regardez bien, quand il y a eu le Covid, la crise du Covid, les grandes surfaces n'ont pas fermé. On a protégé les multinationales et on a détruit la classe moyenne. Pourquoi? Parce que dans la classe moyenne, c'est là qu'on se forge le caractère, on se bat pour vivre. C'est là qu'on a des relations avec les clients. C'est là qu'on cherche à faire plaisir aux clients et en même temps à soi-même. C'est là qu'on a une relation humaine. Par l'interrelation dans le commerce local, dans le commerce entre humains. Tandis qu'avec le commerce par ordinateur, Facebook et Amazon, c'est un commerce impersonnel où chacun commande pour ses besoins centrés sur soi-même et favorise la disparition de la communication sociale et de l'esprit d'initiative dans les classes moyennes. Si cet esprit d'initiative, cet esprit d'entreprise, cet esprit de responsabilité disparaît, on n'a plus que des petits chiens, des petits toutous qui obéissent. Tout le monde est nivelé par le bas. Maintenant, prenons un deuxième à Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, le dernier jour eschaton, c'est depuis le moment où Jésus est ressuscité, monté au ciel, jusqu'à son retour. Hein. Ce n'est pas les derniers jours des témoins de Jéhovah. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc des temps d'opposition. Et Jésus l'a dit, du blé et de l'ivraie, des boucs et des brebis, etc. Matthieu 25. Et puis lisez Matthieu chapitre 13. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, Et rappelez-vous, le président de la République de France, il y a 3 ans, a dit « Nous avons le droit de blasphémer » à la télévision. J'imaginais qu'il ose dire ça. Mais celui qui se heurte à Dieu sera brisé. J'en suis sûr et certain. Ô hautains blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans religion, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, donc d'une vraie relation avec Dieu, mais reniant ce qui en fait la force, reniant Christ et le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Qui est Jannès, qui est Jambrès? Ce sont deux sorciers, deux très grands sorciers, de grands médiums, qui est à côté de Pharaon. Quand Moïse et Aaron arrivaient pour demander la libération du peuple hébreu, qui fabriquait dans la boue des briques tous les jours comme des chiens, et il y en a dans certains pays, ils sont dans cette condition, des chrétiens, eh bien, Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour les libérer. Et il conseillait, ces deux, Jannès et Jambrès, conseillaient Pharaon de ne pas lâcher. Et il jetait des malédictions sur le peuple de Dieu. Jannès et Jambrès n'ont pas réussi. C'est Dieu qui a réussi. Il a libéré son peuple et a fait passer la mer rouge. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans beaucoup de pays souffrent de la même façon que les Hébreux qui faisaient des briques dans la boue tous les jours de leur vie, de génération en génération. Ce n'est pas Moïse qui viendra les libérer cette fois-ci, c'est Jésus-Christ. Et je pense que c'est bientôt. Et les ennemis seront confondus. Les Jannès et les Jambrès, qui utilisent peut-être de la sorcellerie pour maintenir les chrétiens dans l'humiliation, dans la pauvreté, seront brisés. Donc dans certains pays, si vous voulez, moi j'ai remarqué ça en visitant d'autres pays, les sorciers sont très actifs contre les chrétiens. Que ce soit des sorciers animistes, c'est-à-dire pas de religion officielle, mais ils sont en contact avec la nature, les esprits, les morts, etc., ou des sorciers dans l'islam. Il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes de prières aux djinns pour faire du mal à ceux qui ne sont pas musulmans, ou à ceux qui déplaisent, même parmi les musulmans. Cette réalité existe. C'est pour ça que j'invoque devant vous la nécessité de la prière. Nous, ici en Europe, partout, nous devons prier pour les chrétiens persécutés, pour les chrétiens humiliés, pour les chrétiens bafoués. Partout, nous devons adorer Dieu pour que Jésus revienne le plus vite possible pour les libérer. Et nous aussi, nous libérer aussi. Tous ces pauvres qui souffrent passeront les premiers devant nous. Ils passeront les premiers. J'en suis sûr. Donc, Dieu a donné une image du monde tel qu'il arrive. C'est 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Mais voici une recommandation que Paul fait à ce brave garçon qui a été éduqué dans la Bible, dans la foi en Dieu, le Dieu d'Israël, par la grand-mère et la maman. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. Alors, c'est clair, le tableau est bien dressé. C'est un homme qui a des qualités spirituelles énormes et qui est bafoué, humilié, combattu. Et Il dit à Timothée, regarde-moi, ou regarde celui qui est en moi, qui a pris ma vie en main. Alors, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, donc c'est des pays de Turquie, des villes de Turquie. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Plus vous avez la foi, fondamentalement, vous accordez du temps à la prière et à la parole de Dieu, plus l'ennemi s'acharne. Si vous abandonnez la prière et la parole de Dieu, le diable n'a plus en face de lui quelqu'un qui lui résiste. Il va vous laisser la paix, mais vous irez loin de Dieu. Il est clair que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes, les méchants, les imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, reconnues dans la conscience, par l'action du Saint-Esprit, par l'humilité. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, donc l'Ancien Testament, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Sage à salut, c'est-à-dire obéissant dans le salut. Ce n'est pas tout d'être sauvé, mais c'est que Jésus soit mon Seigneur et que je lui obéisse. Sage à salut. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, donc la sainteté de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, chers amis, vous comprenez bien que la vie sert à quelque chose. Ce petit garçon se trompait. Il était déjà imbibé par la philosophie du monde de l'Occident. L'homme ne sert à rien. Mais ici, c'est faux. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous avez un programme de sainteté et d'œuvre en Dieu. Éphésiens 2:8. Vous avez un beau programme. Saisissez-le par la foi, chers amis, par la foi, pas par l'orgueil. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, séparés de Dieu éternellement, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, comme tout le monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est Satan, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion, l'esprit mauvais des humains qui se moquent de Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les désirs de notre chair, les convoitises. Nous accomplissions les volontés humaines, nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Toujours en pétard les uns contre les autres. Toujours avec des problèmes dans le cœur, dans la conscience. Toujours des problèmes envers Dieu aussi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est-à-dire c'est un cadeau immérité. À la croix, nous avons reçu un cadeau que nous n'avons jamais mérité. C'est le pardon de nos péchés. Et la deuxième chose, c'est que la colère de Dieu disparaît sur nous. Nous pouvons être amis de Dieu à partir que nous acceptons Jésus sur la croix pour moi-même. Alors, il nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés vivants, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit, éternellement, pour toujours. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez, chers amis, si réellement vous aimez Jésus, il y a une place qui vous attend au ciel. Elle est déjà préparée. Jésus l'a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et il y a des places. Votre nom est déjà marqué. Comme dans une grande réception, quand on arrive, tous les noms tel couple, telle personne célibataire, tout le monde a déjà sa place. Et on met des gens ensemble pour qu'ils communiquent ensemble, qu'ils puissent rire, parler, louer le Seigneur ensemble. Au ciel, nous avons notre place, elle est réservée. C'est le bénéfice de la croix, c'est le bénéfice de l'amour de Christ. Une place nous est acquise dans les lieux célestes, au trône de gloire. Vous vous rendez bien compte, si vous êtes réaliste, qu'une place sur terre n'est pas très intéressante actuellement. Beaucoup d'hommes aujourd'hui souffrent. Quelle pauvre place nous avons sur terre et quel pauvre rôle, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est un rôle. Nous sommes mis à l'honneur. Nous sommes placés dans la gloire de Dieu, gratuitement. Et Jean le dit dans son épître, la première épître au chapitre 3, lorsque nous le verrons, nous lui deviendrons semblables. Aussi beau, aussi saint, aussi vrai, sans aucun défaut, lavé, purifié, habillé de la robe blanche des œuvres saintes de Jésus-Christ. Alors, il nous a réunis ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans le royaume de Dieu, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, donc de son cadeau, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, par vos actions, vos mérites, vos efforts, vos prières, etc., les œuvres religieuses. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ne se présente avec de l'orgueil devant Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, recréés, nouvelle naissance, pour de bonnes actions, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons fondamentalement quelque chose de bon et de vrai et de saint à faire sur terre. N'écoutons pas les gens désespérés, révoltés, blasés. N'écoutons pas ce cri des cœurs incrédules, incroyants. Qu'ils aient une religion ou pas, qu'ils soient athées, qu'ils soient communistes, qu'ils soient n'importe quoi, leur cœur est séparé de Dieu. Et nous, notre cœur a été uni à celui de Jésus-Christ. Nous sommes présentés devant Dieu le Père en Jésus-Christ, dans son amour, dans son sang. Si dans l'Occident, les églises protestantes qui avaient la parole de Dieu se sont égarées, s'ils ont établi toutes sortes de messages, de doctrines, de livres, d'institutions théologiques, où on ne croyait plus dans la résurrection de Jésus, on ne croyait plus dans la création de Dieu, du monde par Dieu, ces gens se disent toujours chrétiens. C'est le libéralisme protestant. En orthodoxie, après un certain temps, après 2 siècles de foi, comme on a baptisé beaucoup de monde dans l'Empire romain alors qu'ils n'avaient pas la foi, ça c'est dès le 3e siècle avec Constantin, on a baptisé des gens qui n'avaient pas la foi, qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui n'avaient pas confessé leurs péchés, reconnu leur cœur mauvais et qui n'avaient pas déposé à Dieu ce cœur mauvais pour être pardonné. Tous ces gens avaient été baptisés en série, tout petits ou adultes, sans avoir la foi. Ce n'est pas le baptême que Jésus a demandé. Ça, c'est le baptême des empereurs. Et il continue encore aujourd'hui à travers l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Mais quand les gens souffrent, ont un manque, comment font ces églises pour laisser croire que le Saint-Esprit est là? Eh bien, dans l'orthodoxie, il y a des cultes, des chants pendant 2-3 heures, avec de l'encens, des belles icônes, des beaux encensoirs. Il y a une ambiance. Et on pense que par les icônes, les images de Christ, de Marie, etc., on pense que par les chants, que par l'encens, par les belles images qui sont peintes au plafond et partout, on pense que l'Esprit Saint est diffusé dans le cœur des hommes. Je prends une tasse d'eau chaude, je prends une infusion, du thé ou autre chose, je le trempe dans l'eau, je le remonte, je le remonte, je le redescends, et pour finir, l'eau est colorée et a le goût de ce qu'il y avait dans le petit sachet. C'est ça l'infusion. L'Église orthodoxe fait de l'infusion et elle pense que le Saint-Esprit est donné par le rythme et le rituel, par les images, l'adoration des images. En Église catholique, c'est un peu la même chose. Les hommes font l'expérience, à un moment donné, vers 12, 13 ans, 14 ans, ceux qui ont été baptisés petits, qui ne sont pas réellement chrétiens, qui ne sont pas réellement connectés à Jésus, qui ne sont pas sauvés. Ils essayent de se persuader. Comment font-ils alors? Ils vont devant une statue. Ils mettent des bougies et de l'encens. Ils vont aller dans une église, il y a des grandes orgues, des grandes musiques, et comme ils ressortent bien, rassurés, apaisés, ils pensent que c'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Dans les églises pentecôtistes, je ne dis pas toutes, mais dans beaucoup d'églises pentecôtistes, c'est la même chose. Il y a à Paris l'église Hillsong, la montagne de louanges, où il y a énormément de musique, énormément, quelques versets bibliques, etc. Et à Bordeaux, c'est 4000 personnes, à Paris 2000, mais il y a la même chose à Mulhouse, etc. Partout, il y a des grandes églises. Aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers de personnes. L'ambiance, le théâtre, touche tellement les gens qu'ils pensent qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ou qu'ils vont le recevoir ou qu'ils l'ont déjà reçu. Or, le Saint-Esprit est clairement donné par Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Par aucune ambiance, par aucun encensoir, par aucune musique moderne ou de l'orgue dans les grandes églises baroques, ou par des icônes, par des statues. Rien ne donnera le Saint-Esprit en dehors de Christ et son Père des cieux. Donc nous avons fait grandir des foules immenses dans le mensonge. Elles ont été baignées dans le mensonge et elles le suivent parce qu'elles ne connaissent rien d'autre. La vie nouvelle se donne lorsque nous acceptons Jésus-Christ, sa personne, que nous voyons qu'il est mort pour soi-même, pour moi, sur la croix, parce que je suis séparé de Dieu de toute éternité. Il a payé ma dette pour ma méchanceté, mon orgueil, et il a payé au point qu'il n'y a plus de colère de Dieu sur moi. Je peux entrer dans le ciel derrière lui. Ma porte est assurée. Ma porte est assurée. Apocalypse chapitre 3. Mes chers amis, oui, l'homme peut s'améliorer en Christ uniquement. Oui, l'homme peut trouver la liberté par rapport à ses passions, à ses colères, à ses peurs, en Christ uniquement. Oui, l'homme peut éviter les mensonges, les leurs, les semblants de Saint-Esprit, les semblants de vérité. Oui, l'homme peut trouver la vérité. Pour preuve, une église parmi les sept. Et donc, il y a des églises comme cela sur la terre. Cherchez-les. Apocalypse, chapitre 3. Verset 7. Écrit à l'ange, donc au responsable humain, hein, le délégué qui venait voir Jean, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, où il était en résidence surveillée, une île dans la Méditerranée, une île grecque, écrit au messager de l'église de Philadelphie ceci. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, donc Jésus-Christ. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous avez vu? Jésus-Christ ouvre la porte du ciel. Mais il la ferme à d'autres. C'est lui qui a l'autorité de donner le pardon des péchés. C'est lui qui nous donne l'accès à Dieu le Père. Et rien d'autre. C'est pas l'eau du baptême. C'est pas les rites religieux. Le baptême ne fait que représenter une ancienne vie que j'ai renoncée, On plonge dans l'eau, on ressort de l'eau, une nouvelle vie avec Jésus. C'est une image, c'est un acte d'obéissance, c'est un symbole pour toucher le cœur de tous ceux qui sont là, et surtout pour dire à Satan, j'ai perdu ma vieille vie, j'ai reçu une nouvelle vie en Christ. Et pour le confesser devant les anges et devant Dieu aussi, qu'ils se réjouissent. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres, donc tes engagements, tes actions, etc., tes pensées. Voici, parce que tu as peu de puissance, pas de richesse, pas de grand bâtiment, pas de gloire. Que tu as gardé ma parole, la parole de Jésus, que tu n'as pas renié mon nom, la personne de Jésus. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici l'autorité de Jésus-Christ sur la vie du chrétien. Il n'y en a pas d'autre, ni pape, ni évêque, ni pope orthodoxe, ni rite religieux. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, il y a, à mon avis, ça va arriver bientôt, l'année prochaine, ou je sais pas quoi, il va y avoir très rapidement une très grande épreuve sur le monde. Ou dans 2-3 ans, mais peu importe, elle est là, à la porte. C'est quelque chose d'inédit. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est que Jésus garde ceux qui sont fidèles dans cette grande épreuve. Tandis que tout à l'heure, la dame me disait, mais j'ai tout analysé, je ne sais pas où il faut aller, je ne sais pas où aller, que faire, on est coincé, qu'elle dit. On est coincé. Je l'écoutais. Il n'y a pas de solution à notre situation. Si demain on perd tout, je gère une banque, je gère une compagnie d'assurance, d'immobilière, demain, mais tout ça c'est fragile, il dit. Demain il n'y a pas de client, c'est fini, c'est à terre. Elle est très réaliste. Et où aller? Monsieur, vous pourriez me le dire? Vous pensez bien que je dois prier, mes amis. Je vais dire des âneries. Et tout à l'heure, quand je fais le tour de ce que j'ai dit, il y avait déjà des âneries. Parce que j'ai été pris au dépourvu. Je n'avais pas prié assez aujourd'hui. Dans la prière, l'autorité de ce que Dieu m'a mis dans mon cœur va ressortir. Pour cette personne, quand je la reverrai. Et elle tient à ce que je la revoie. Chers amis, partout, il y a des hommes qui cherchent, des femmes qui cherchent, mais vous devez être à disposition de ces personnes. Comment? En gardant la parole de Dieu avec la persévérance en Jésus-Christ. Apocalypse 3, verset 10. Vous êtes utile, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes formidablement précieux. Dieu vous a choisi. Soyez fidèles à votre mission de chrétien. Que Dieu vous bénisse et à mercredi à 18h, si Dieu le veut, s'il n'y a pas d'inconvénient d'Internet ou autre chose. C'est avec amour que j'ai essayé de vous transmettre ce message.